Bienvenue sur
Radio Ucluc.
On est en décembre 2021 et pour cette deuxième émission de Radio Ucluc, on se demande toujours et pour quelque temps encore ce que faire société peut bien signifier. Pensée comme une série d'émissions longues, trimestrielles et thématiques, où se croisent l'art, la littérature, la vie, la spiritualité, où des voix diverses font part de leur situation, invention, réflexion, expérimentation particulière et collective. Pour ce second opus, nous avons choisi d'explorer la convivialité.
Pensée et réalisée par Angèle Manuali et Mathis Berchery, cette émission vous accompagne de l'heure du thé au début de la soirée. Elle vous propose un parcours éclectique de plusieurs heures à travers des interviews de Barbara Manzetti à propos de son projet Rester étranger, de Benoît Gasnier qui met en scène et en vie des expériences relationnelles et culinaires, de Fanélie Pardon, membre active de l'association Yes We Camp, mais aussi chanteuse, et enfin du collectif vietnamien Saola qui fait vivre un lieu pluridisciplinaire à Dalat. Comme toujours, vous découvrirez également de nouvelles brèves littéraires offertes par des contributeurices invités, ainsi qu'une lecture poétique de Laura Vasquez, une méditation d'Angèle Manuali sur le rassemblement, plusieurs pièces sonores de Briec-Huon qui ponctueront ces quelques heures, et pour finir, une nouvelle collecte de La Parole Boue. Pour suivre à votre guise ce programme et tout savoir sur ses contenus, vous pouvez vous référer à la ligne du temps indiquée sur le lecteur et pour davantage de détails et références sur chacune des interventions, rendez-vous sur www.ucluc-maison-de-recherche.fr/radio ou sur notre compte Instagram. Bonne écoute sur Radio Ucluc.
La maison tombe lentement. Elle tombe lentement. Les enfants tombent lentement. Ils tombent lentement. Leurs bouches tombent lentement. Les bouches des enfants vont lentement. Et leurs jambes tombent lentement. Leurs jambes tombent lentement. Tout tombe lentement. La ville tombe, elle tombe, elle tombe lentement. La ville tombe, elle tombe doucement. Depuis longtemps. Depuis beaucoup de temps. La maison tombe et les gens tombent. Les bouches tombent et les gens tombent. Et le dessus des yeux, et le dessous du ventre, et le dedans du ventre, et le dedans des joues, et le dessus des cils, et le dessous des mains, et le dedans des pieds, et le dessous des tables, et le dessous des seins, et le dessus des tombes, et le dessus des crânes, et le dessous de soi, et le dessus de soi, et le dedans des ventres, et le dessus des ventres, et le dessous des ventres, et le dedans des ventres, tout tombe, tombe. Tout tombe lentement, les pierres tombent, et les échanges, et les histoires, et les objets, et les liquides, et les ruisseaux, et les vidanges, et les serpents, et les échanges, et les liquides, et les échanges, et les salives, tout tombe, tombe. Tout tombe lentement dans les organes, dans les maisons, dans les chemins, dans les échanges. C'est la tournure, c'est le chemin, c'est la méthode, c'est la mesure, c'est un échange, c'est une idée, c'est un problème, c'est une idée, c'est un chemin, c'est un échange, c'est un rapport, c'est un chemin, c'est la tournure, c'est la méthode, c'est la mesure. Tout tombe, tombe. Tout tombe doucement, tout tombe lentement, tout tombe doucement dans les maisons, dans les tournures, dans les endroits, dans les bordures, dans les forêts, dans les histoires, dans les paroles, et sans arrêt, et sans vitesse, et sans vacarme, et sans pensée, et sans souffrir. C'est la tournure, c'est ce qui tombe, et le dessous des bras, et l'idée des figures, et l'idée de la mort, et l'idée de la honte, et l'idée de la fonte, et l'idée des liquides, et les liquides mêmes, et les personnes lentes, et les personnes bien, et la vie est bien lente, et la vie est tombée, et la vie est bien calme, et la vie est bien lourde, et la vie est bien belle, et la vie est la vie, et la vie est tombée, et la vie est en train de tomber, mais lentement, tout tombe lentement, dans les personnes, et dans la gorge des personnes, et dans les ventres des personnes, et tout avale les personnes, et dans la gorge et lentement, et tout va dans la gorge, mais lentement, dans la maison des hommes, dans la maison des loups, dans la maison des mères, dans la maison très noire, toutes les mères noires. On se donne de l'eau, on se donne des branches, on se donne des ventres, on se donne des langues, on se donne du pain, et tout tombe dessus.
C'était « Tout tombe » de la poétesse marseillaise Laura Vasquez, dont on peut désormais lire un premier roman, « La semaine perpétuelle », publié aux éditions du Sous-sol. Après ce texte formidable et avant d'entamer une première discussion avec Barbara Manzetti, nous vous proposons, comme à chaque fois, de poursuivre la mise en jambe littéraire et poétique avec une sélection de chroniques d'ouvrages à découvrir ou relire, avec, par ordre d'apparition, « Fever Pitch » de Nick Hornby, chroniqué par Dimitri Hab, « Les groseilles de novembre » de Andrus Kivirek, chroniqué par Vincent-Michaël Vallée, « Le chant du poulet sous vide » de Lucie Rico, chroniqué par Mathis Bercherie.
Arsenal contre Derby, 12 février 72. En ce temps-là, pour qu'un match soit vraiment mémorable et que je revienne à la maison grisée de bonheur, plusieurs conditions devaient être remplies. Il fallait que j'y assiste avec mon père. Nous devions déjeuner avant dans une friterie, à une table rien que pour nous, et avoir des places juste en face du tunnel par lequel sortaient les joueurs, dont je pourrais avant tout le monde saluer l'arrivée sur le terrain. Arsenal devait jouer avec brio et l'emporter par 2 buts indiscutables. Le stade devait être plein, ou presque plein, ce qui impliquait un adversaire de qualité. La partie devait être filmée par ITV, qui la retransmettrait le dimanche après-midi, plutôt que par la BBC, qui la diffuserait le soir même. J'aimais attendre un plaisir promis. Et papa devait être chaudement vêtu. Souvent, il arrivait de France sans par-dessus, oubliant qu'il ferait à peine 0 pour notre samedi, et il grelottait si violemment que j'avais des scrupules à insister pour que nous restions jusqu'au coup de sifflet final. N'empêche, j'insistais toujours, et quand nous regagnions la voiture, il était si gelé qu'il avait peine à parler. Je me sentais coupable, mais pas au moins de me priver d'un éventuel but de dernière minute. Nick Hornby est un auteur britannique né en 1957 à Redhill, dans le comté de Surrey. C'est un romancier, journaliste et scénariste anglais, dont l'œuvre tourne principalement autour de la musique et qu'il complète parfois d'une activité de parolier. Sorti en 1991, « Carton jaune » ou « Fever Pitch » est son premier livre. Récompensé par le prix William Hill du livre sportif et succès immédiat dès sa sortie, le livre est adapté au cinéma en 1997. Il s'agit d'un essai autobiographique dans lequel l'auteur retrace sa vie personnelle à travers les nombreux matchs de football ayant marqué son parcours de supporter. C'est une sorte de récit initiatique, mené par une passion du foot, plus précisément du club d'Arsenal, de plus en plus dévorante. Ce n'est pas un livre qui m'aurait attiré à première vue. Jusqu'à la dernière Coupe du Monde en Russie, ou peut-être avant l'Euro 2016 accueilli par la France, je ne m'intéressais pas vraiment au football. Néanmoins, une chose m'avait toujours fasciné. La ferveur sportive qui pouvait entraîner un pays entier lors de compétitions mondiales. C'est bien cela qui, de traîner les pieds derrière mes amis supporters, m'a fait devenir l'un des premiers à vouloir réserver des places devant l'écran. Pourquoi ? Parce que l'énergie du spectacle correspondait à celle d'un concert, et, ma passion pour la musique étant débordante, je ne pouvais résister à une telle ardeur. À la sortie du deuxième confinement, les salles de concert ont dû garder leurs portes fermées. Naturellement, je me suis donc dirigé vers les bars aménageant leurs terrasses dans le but d'accueillir les nombreux spectateurs privés de stade pour mesures sanitaires, alors que la compétition européenne reportée à cette année débutait. Après une soirée endiablée, qui a malgré tout vu la France perdre en 8e de finale contre la Suisse, j'étais convaincu de m'y intéresser de plus près. Il n'y avait aucun concert de prévu à l'horizon, la France était disqualifiée, mais chaque soirée de match de club ou même d'un pays étranger encore en lice pour la Coupe était un possible rendez-vous de découverte avec le match pour colonne vertébrale. De même que la conversation se crée avec le sourire dans la file d'attente d'un concert, nombre des rencontres effectuées étaient des plus bienveillantes. Ainsi, malgré les travers rappelés par l'auteur, que peuvent compter les rassemblements au stade, comme les exclandres ou avanies de certains supporters, ou les tragédies ayant eu lieu à l'époque, fruit de mouvements de foule meurtriers mais partie intégrante de l'histoire socio-économique d'Angleterre, j'ai choisi de présenter le livre de Nick Hornby, qui, par un sujet différent de ma passion initiale, quand bien même j'ai fini par l'aimer tout autant à certaines occasions, retrace un parcours semblable à tout individu traversé d'une passion, qui s'y cherche, s'en nourrit et s'y trouve, notamment à travers et avec l'aide d'une communauté, d'une identité collective, présente avant sa naissance et qui demeurera longtemps après. Carton jaune, ou Fever Pitch, rappelle comment chacun peut intégrer un paysage, qu'il soit sportif, artistique ou musical, peu importe ses origines, tout en servant une idéologie incarnée par une passion commune, que ce soit le club d'Arsenal ou un groupe de rock américain. Le football est notoirement un jeu populaire, c'est-à-dire qu'il fascine toutes sortes de gens qu'on aurait tort de fondre en un peuple. Certains amateurs se recrutent parmi les socialistes sentimentaux, certains proviennent, à leur vif regret, des grandes écoles, d'autres, un écrivain, un publicitaire, un présentateur radio, se sentent coupés par leur métier d'un univers auquel ils ont l'impression d'appartenir et que le foot leur permet de regagner sans peine ni délai. Ce sont ces nostalgiques qui ne résistent pas à la tentation de voir dans un stade la soupape de sûreté d'une populace explosive et haineuse. À la réflexion, ils n'ont pas d'intérêt à dire la vérité, qu'il n'y a guère Dieu de pitbull et que ceux-ci sont en général dissimulés sous des lunettes, que les gradins sont peuplés d'acteurs, de starlettes, de professeurs, de comptables, de médecins, d'infirmières, autant que de prolos à casquette, le sel de la terre et de voyous forts en gueule. Sans cette démonologie, qui découvre dans les stades des myriades de monstres, comment ceux qui ont perdu le contact avec la réalité du monde moderne pourraient-ils prétendre le comprendre ? Il me semble que représenter les supporters comme des spécimens d'une humanité rotante encourage à les traiter ainsi, et, par conséquent, incite au déclenchement de tragédies comme celle de Hillsborough. Après avoir lu l'article d'Ami, un sage, Ed Horton, a écrit dans le fanzine When Saturday Comes, « Les écrivains sont les bienvenus dans les stades ». Le foot n'a pas la littérature qu'il mérite, mais les snobs, enclins à s'encanailler avec la racaille, nous nous en passons volontiers. Voilà qui est parlé d'or. La pire chose que je pourrais faire pour le foot serait donc de mettre en sourdine ou de renier l'éducation que j'ai reçue, ou d'en demander pardon. Arsenal m'a été donné longtemps avant Cambridge, et je l'ai gardé bien après. Pour autant que je le sache, nos 3 années de séparation ne font aucune différence.
Au même moment, dans une autre maison, on réfléchissait aussi à la fabrication d'un crate. L'intendant des récoltes et sa femme enceinte, plein d'entrain et d'énergie après les émotions fortes de la veille, avaient décidé de se doter d'un nouveau serviteur. « Il faut prendre à la vie tout ce qu'elle peut nous offrir », déclara Oscar. « La peste ou n'importe quelle autre terrible maladie peut survenir à tout instant et nous tuer. Le seul plaisir qui nous restera quand nous serons morts, ce sera de venir comme des miséreux, laper une soupe claire le jour des âmes et de nous flageller ensuite dans une étuve tiède. Mal, je pense vraiment que nous devons fabriquer un nouveau crate. Et nous allons en faire un très gros, qui ait la force de porter beaucoup de choses. Les petits crates ne sont que des petits joueurs, ils entassent des trucs dans des sacs comme des cueilleurs de myrtilles. Mais un gros pourrait prendre une grange tout entière sur son dos et la rapporter ici. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais avec quoi fabriqueras-tu ce crate ? Demanda Mal. Je mettrai 3 charrettes, l'une au-dessus de l'autre, et j'ajouterai une vieille ruche en guise de tête, expliqua l'intendant des récoltes. Une telle créature aura une force et une résistance exceptionnelles, et en plus de tout le reste, elle tiendra les voleurs à distance de notre ferme. Eh bien d'accord, faisons-le, approuva Mal, convaincu par l'ambitieux projet de son mari. Je suis si heureuse que nous ayons réussi à échapper aux griffes de la peste, qu'il faut vraiment faire quelque chose de grandiose pour célébrer cela. Et il n'y a rien de plus grandiose qu'un bon crate bien fort, ajouta Oscar, qui ordonna aussitôt à son vieux et petit crate de disposer des charrettes les unes au-dessus des autres. Lorsque la nuit commença à tomber, le monstre était terminé. La gigantesque créature se dressait au milieu de la cour, semblable à un moulin, n'attendant plus qu'une âme pour se mettre au travail et rapporter à son maître des granges et des étables entières. L'intendant des récoltes était satisfait. Il tapota son nouveau crate, puis se mit en route pour la croisée des chemins. Ceci était un extrait du livre « Les groseilles de novembre » de l'auteur estonien né en 1970, Andrus Kivirek. Traduit en français en 2014, l'ouvrage est publié par la maison d'édition Le Tripode, avec une très belle couverture illustrée par Denis Dubois. Andrus Kivirek est un véritable phénomène littéraire dans son pays. Il écrit aussi bien des romans et des nouvelles que des pièces de théâtre et des scénarios de films d'animation pour enfants. Il est l'auteur d'une œuvre déjà importante qui suscite l'enthousiasme et l'attente du public à chaque nouvelle publication, et sa renommée ne se limite plus aux frontières de l'Estonie. En 2004, les ventes du roman Les groseilles de novembre lui permettent de devenir l'écrivain estonien le plus populaire de ce début du XXIe siècle, et en 2007, son livre L'homme qui savait la langue des serpents conforte ce statut. Depuis le début de sa carrière, plusieurs prix littéraires viennent honorer son parcours, comme le Grand Prix de l'Imaginaire en 2014. Lire Andrus Kivirek, donc, et plus précisément Les groseilles de novembre, c'est se confronter à un monde imaginaire un peu particulier, entre le journal d'un village médiéval inspiré d'un tableau de Bruegel, avec des serfs et des barons, mais aussi des personnages et créatures folkloriques sortis d'un tableau de Bosch, avec des démons, des vaches magiques qui volent, une sorcière et une créature folklorique imaginaire sur laquelle nous reviendrons plus tard, mais qui faisait partie de notre extrait, le crate. Le livre fait du bien, car comme tout roman de fantaisie, il nous sort de nos vies quotidiennes pour nous plonger dans un univers dont on ne sait rien, dont on ne sait pas ce qui peut advenir la page suivante. Le roman en lui-même est écrit par journée chapitre. Il débute le 1er et se termine le 30 novembre. Il n'y a donc pas de début ou de fin à cette histoire, uniquement une tranche de temps prélevée dans la vie de ce village, où à chaque journée suffit sa peine. Nous parlions précédemment du crâne, car cette créature mythologique que l'on rencontre dès les premières pages insuffle et condense à elle seule une certaine idée de l'atmosphère du village. Le crâne est un être fait de briques et de brocs. Il est formé à partir de rien, de foin, de vieux outils et de tout autre objet domestique que l'on a sous la main. Il prend vie, après avoir passé un pacte avec le diable. À partir de ce moment, le crâne va chercher ce qu'on lui demande et rien ne lui résiste. Il se situe entre le voleur et l'exauceur de souhaits. Qui donc alors ne rêverait pas de posséder un crâne, que ce soit pour une tâche difficile à accomplir, pour checker rapidement une liste de courses, pour voler et nous rapporter un objet tant désiré. Derrière ce côté chapardeur, le crâne a su rester une figure poétique. Il est normalement qu'un simple intermédiaire entre nous et la chose désirée. Et pourtant, il est aussi cette chose que nous prenons soin à bâtir. En effet, le choix des éléments qui le constituent est crucial. Construit à partir de chariots, il sera grand et fort et pourra voler jusqu'à des granges tout entières. Construit avec de la neige, il portera la mémoire de chaque goutte qui le compose et pourra nous raconter des histoires venues d'ailleurs. Mais par contre, il ne sera ni robuste face aux efforts et encore moins face au soleil. Les crâtes deviennent par ailleurs des compagnons et des amis pour leurs propriétaires, devenus un temps au moins des pygmalions. On se demande à la lecture des groseilles de novembre si la meilleure des places n'est pas dans les efforts entrepris pour obtenir l'objet de nos désirs, peu importe ce qu'il soit, et non dans l'assouvissement de ce désir. Autrement dit, le faire n'est-il pas plus beau que le fini ? Le crâne deviendrait donc une métaphore plus ou moins lointaine d'une certaine pratique artistique qui se cherche, se grandit et se définit dans chaque nouvelle œuvre. Je vous laisse partir à leur rencontre. En attendant, voici un deuxième extrait qui laisse les crâtes de côté et nous raconte cette fois une histoire de singe. Mais Inst l'interrompit brusquement. Ça m'est égal. Un ordre du baron est un ordre. Et un bouseux comme toi n'a pas son mot à dire. Tu veux donc qu'on te fouette dans l'écurie, canaille ? Va vite atteler le cheval au traîneau et pars chercher l'avocat. Qui ça ? L'avocat, répéta Inst. Le valet de chambre expliqua à Yann où il devait retrouver ce personnage pour le conduire au manoir. Yann écouta attentivement et oublia aussitôt sa faim. Un avocat ? Ce devait être une sorte de singe. Ça, c'était chouette. Yann n'avait jamais vu de singe. Le regretté Timofey lui avait déjà parlé de cet animal qui était très semblable aux humains, mais plus petit, poilu et avec une longue queue. Les singes faisaient des choses amusantes. Timofey en avait vu un quand il combattait dans un pays lointain. Mais Yann, qui n'avait pas fait son service militaire car il était boiteux, n'aurait jamais pensé qu'il aurait un jour la chance de voir un singe. Il attela donc le cheval au traîneau, avec grand plaisir, et partit dans la direction qu'on lui avait indiquée. Au bout d'une bonne heure de trajet, il aperçut au bord de la route l'auberge où, d'après les explications d'Inz, le singe devait attendre qu'on vienne le chercher. Yann était très excité. Il se demandait si l'animal se mettrait tout de suite à faire des choses amusantes. Lorsqu'il s'arrêta devant l'auberge, il en vit sortir une silhouette poilue. C'était l'avocat, un petit homme barbu, vêtu d'un épais manteau de fourrure qui descendait jusqu'au sol et d'une énorme chapka. Il vint jusqu'au traîneau et s'installa sur la banquette. Le cœur de Yann bondissait de joie. Le singe était vraiment magnifique, comme une seule grosse boule de poils, mais on ne voyait nulle part sa queue. Une fois dans la forêt, Yann arrêta le traîneau, se retourna et regarda l'avocat de ses yeux brillants. Puis il poussa l'homme avec le manche de son fouet et lui cria « Singe, tu m'entends, singe ? Fais quelque chose de rigolo, singe !» Le singe repoussa le fouet et ne répondit rien. Mais ce seul geste suffit à mettre Yann en joie. Il éclata de rire et continua à titiller l'avocat avec son fouet tout en criant « Singe, singe, x-x-x. » Cette fois, le singe ouvrit la bouche et vociféra quelque chose dans une langue étrangère. Yann explosa de rire. « Hourra, hourra, petit singe, allons jusqu'à une taverne, je t'achèterai de la vodka et nous verrons ce que tu feras alors. Et je veux voir ta queue, j'y attacherai un pot en fer blanc et je te relâcherai, on va bien rigoler. » Il continua à conduire, de très bonne humeur, en observant de temps en temps le singe du coin de l'œil. L'animal semblait agité, voire effrayé. Il donnait l'impression d'être assis sur des braises et de vouloir sauter du véhicule. « C'est un animal sauvage, se dit Yann, il a envie de rejoindre la forêt. Je dois veiller à ne pas le laisser s'enfuir. » Il se retourna de nouveau, menaça du poing l'avocat et lui dit en essayant de prendre une expression aussi méchante que possible « Si tu t'agites encore, je te tue. Tu as entendu l'animal ?» le singe se calma et couvrit ses yeux de ses mains. À la première taverne, Yann arrêta le traîneau et tira l'avocat qui rechignait. « Viens avec moi, singe, n'aie pas peur. Je ne suis pas aussi méchant que j'en ai l'air. En réalité, j'adore les animaux. Viens maintenant, petit singe, tu auras de la vodka et du pain blanc. » L'avocat appela au secours et tenta de résister. Mais Yann lui donna un bon coup de pied au cul et le poussa dans la taverne. « Quel sauvage, il n'arrête pas de s'agiter. Fais attention à toi. Et si tu mords, tu goûteras de mon fouet. » Il poussa l'avocat contre le comptoir et commanda de la vodka. « Regarde quel beau singe j'ai avec moi » proclama-t-il fièrement. « Tavernier, est-ce que tu veux que je lui dise de danser pour toi ?» Le tavernier, bien loin de prendre pour un singe ce monsieur effrayé en manteau de fourrure, fut au contraire profondément étonné par la brutalité avec laquelle un valet de ferme se comportait avec un homme qui présentait tous les signes apparents de la richesse. Quand Yann se mit à quatre pattes pour tenter de trouver la queue de l'avocat, le tavernier envoya discrètement quelqu'un chercher de l'aide, car il était maintenant certain d'avoir affaire à un fou. L'avocat se débattait et fit même une tentative pour s'enfuir, mais le valet lui fourra de force un pichet de vodka entre les dents et lui pétrit le visage jusqu'à ce qu'il le boive. Après quoi, il éclata d'un rire enfantin et cria « Maintenant, singe, montre-nous ce que tu sais faire ». Il fit un geste en direction de quatre solides gaillards qui venaient justement d'entrer et leur lança « Les amis, venez voir vous aussi, le singe va commencer à faire des tours ». « C'est lui », indiqua le tavernier depuis son comptoir. Les quatre hommes se précipitèrent sur Yann, le jetèrent au sol et le ligotèrent. Le tavernier, qui connaissait un peu l'allemand, demanda à l'avocat quelle était la destination de son voyage. Deux hommes acceptèrent de le conduire à bon port avec le traîneau de Yann. Le valet, sans connaissance, fut chargé à l'arrière et ils se mirent en route. Pendant la nuit, lorsque Karel revint de la taverne, il trouva dans sa ferme son valet en sang. La correction qu'il avait reçue des quatre hommes n'était rien à côté du châtiment que lui avait infligé ensuite le baron, après avoir appris de la bouche de l'avocat le comportement inqualifiable du paysan. Yann avait été attaché sur un banc et fouetté. Hinz, qui y avait assisté à la scène, avait confié plus tard à Louise « Un idiot pareil, ça ne sert à rien de le battre. Il ne deviendra pas plus intelligent. J'ai bien regardé son visage. À chaque coup qu'il recevait, il devenait encore plus stupide. D'où sortent-ils, les types comme lui? Ils ne peuvent pas être des descendants du grand Lambitu. Ce sont plutôt des bâtards, engendrés par des hommes à tête de chien. Des sangs mêlés, j'en suis sûr, une race étrangère. Aucun rapport. » Avec l'ambitu. Yann gémit toute la nuit dans la cuisine froide, maudissant intérieurement le singe qui lui avait valu tant de désagréments. Un animal aussi horrible, il faudrait l'écorcher et le mettre dans une marmite puis le faire bouillir jusqu'à ce que la viande se détache des os et le donner à manger au pauvre valet. Ô Seigneur, je pourrais enfin me remplir le ventre. Il avala sa salive sanguinolente en s'imaginant que c'était du bouillon de singe. Pendant la nuit, les loups hurlèrent et grondèrent derrière la fenêtre et quelqu'un, probablement un démon ou un pélu noir, poussa de déchirants cris de douleur.
Au milieu du champ, Théodore écrase l'herbe, frappe le sol en piétinement concentrique. Lorsqu'il a tracé un rond parfait, il se fige puis recommence. Son dos se courbe, sa tête s'incline, il se redresse. Parfois, une pierre interrompt sa route et il dévie sa trajectoire. La pluie ne le gêne pas. Il l'accueille comme une variable neutre. Aujourd'hui, Paul doit le tuer. C'est noté dans son agenda. Le dernier jour, elle l'a accordé à la mère. Même sans salive, la vieille était parvenue à articuler toute une phrase. « Il faudrait tuer Théodore, le borgne. J'aimerais que ce soit toi qui t'en occupe. » Ce n'était pas le moment d'argumenter. Paul avait hoché la tête, docile. Elle avait pensé qu'elle ne le ferait pas. Une fois la mère morte, tout ça n'aurait plus d'importance. Elle rejoindrait Louis à la ville. Il la consolerait de son deuil. Ils reprendraient leur vie citadine. Au hasard, elle avait choisi la date de la sentence et noté « tuer Théodore », puis entre parenthèses « borgne ». Elle avait oublié. Et puis au jour dit, c'est revenu. Paul ne sait plus tuer les poulets, ni même les manger. 20 ans déjà qu'elle vit sans viande dans la bouche. La dernière fois, elle a 16 ans. C'est son anniversaire. Elle vient de terminer le steak acheté à l'exploitation voisine et elle fume, fière, sa première cigarette dans le champ, inhalant trop fort, n'osant pas tousser. C'est l'oncle qui lui a offert le paquet. Les poulets gambadent joyeusement à ses côtés, le temps est beau. La mère sort de la ferme, la porte claque derrière elle, ses jambes sont arquées et elle est en colère, peut-être à cause de la cigarette. Paul pense qu'elle va s'en prendre une. La mère tape souvent, sans raison. Mais cette fois, la vieille ne s'approche pas. Le regard rivé sur sa fille, elle attrape un poulet par les pattes, comme au hasard, se baissant à peine pour le ramasser, et lui tord le cou. Paul entend le bruit implacable. C'est absurde, se dit-elle à cet instant, de tuer un poulet après un si bon repas, juste avant le café. Puis elle comprend. C'est Charles que la mère tient dans sa main, mort. Paul aime Charles. Ils jouent souvent ensemble, elle lui raconte des secrets. C'est son double animal. La mère le jette sur le tronc d'arbre qui sert de billot et abat la serpette. Le sang jaillit. Elle fixe Paul tout au long de l'exécution. Elle fixe Paul les pieds plantés dans la terre, puis secoue avec violence le corps sans tête. Le sang coule encore. L'herbe se teinte de rouge. La robe est tachée. Enfin, lorsque Charles est parfaitement exsangue, la mère jette la dépouille sur le sol et rentre dans la ferme d'un pas lent. Paul reste seul face au cadavre. Sa cigarette s'est éteinte. La nuit tombe. Au repas suivant, elle refuse la viande. La mère continue à mâcher avidement, muette, des abats, du sang de poule à l'ail. Cette viande ne dégoûte pas Paul, elle la trouve logique dans la bouche des autres. Elle constitue leur odeur, leur haleine.
Le chant du poulet sous vide, de Lucie Ricot, commence par cette scène paradoxalement bucolique et violente que l'on vient d'entendre. C'est l'histoire d'une femme, Paul, qui vit à la ville et qui se retrouve dans son village d'enfance après la mort de sa mère. Elle est là pour rendre un dernier hommage à la défunte et accomplir sa dernière volonté. Mais Paul ne s'arrête pas à ce coup de serpette qui signe la fin de vie du cher Théodore. Paul pousse l'hommage au-delà du corps de sa mère. Elle offre un épitaphe à Théodore. Et ce faisant, elle découvre le plaisir d'écrire en même temps que celui de tuer. Ainsi commence une aventure loufoque et grinçante dans laquelle elle retrouve la vie de village, le marché, le bistrot, les vieilles connaissances, les traces des années passées, les représailles et le mépris des locaux, mais une aventure qui la ramènera bientôt à la ville, portée par l'ambition folle d'un fervent marketeux qui trouve dans la personnalité et l'écriture morbide mais touchante de Paul une aubaine commerciale. Ainsi Fernand va-t-il nourrir les espoirs de Paul d'offrir des vies heureuses et des individualités propres aux poulets dont le destin de finir sous vide n'est pour autant pas remis en question. Bien que leur niveau de vie ait considérablement augmenté en arrivant à la ville, mais sans avoir acquis aucun droit. C'est de cette contradiction que le roman fait sa matière, pour renvoyer les lectrices à leurs propres injonctions contradictoires quotidiennes, à l'écart entre leur bonne conscience et leurs actes réels, entre le storytelling du marketing et leur éthique personnelle tacitement et aveuglément mise en péril. Selon Lucie Ricot, l'écriture et la mort sont indissociables. Écrire et tuer sont liés par un acte semblable dont le personnage central est une expression radicale. L'artificialité des mots, et en particulier ceux du marketing et de la publicité, est mise au cœur d'une forme de critique drôle, malicieuse et efficace qui pose la question « Peut-on sincèrement aimer et tuer en même temps ?» En posant cette question, elle nous amène à interroger le rapport aux produits de consommation en général et à la viande en particulier. Manger de la viande, c'est manger de la chair animale, c'est manger une vie tuée, un corps mort, une mort donnée. L'écriture de Paul dans le livre a quelque chose de pervers qui interroge le geste même d'écrire en littérature, et qui tend vers une fracture inévitablement violente et dramatique qui s'insinue doucement mais fermement en même temps que la candeur de Paul est entachée par des détails dissonants qui s'accumulent à mesure que son entreprise se développe. On s'attache bien plus aux poulets qu'aux humains dans ce roman, et on voudrait presque comme Paul que tout s'arrête subitement, que tout le monde ouvre les yeux sur l'artificialité et la fourberie des paradis.
Entreprise novatrice dans l'élevage et la commercialisation des poulets cherche scénariste de vie de poulet, compétences d'écriture et commerciales exigées. Paul s'interroge sur le terme « commercial ». Fernand lui assure que cela n'engage à rien. Mais ils ont besoin malgré tout de scénaristes qui ne partiront pas dans des délires éloignés des demandes de la clientèle. Pour assurer leur succès, il faut être prudent, ne pas trop embaucher. Cependant, il y a des postes clés dont on ne peut pas se passer. Une secrétaire, des agents commerciaux, un comptable et une personne en charge de la communication. Un gros coup est possible. Il faut y aller. Et vite. Fernand n'a pas peur de parler d'argent. Paul aime l'entendre réciter les chiffres. ça l'apaise comme une langue étrangère et bienveillante. Louis aussi a son langage. Elle dessine pour lui les poulaillers dont elle rêve. Lui parle des habitudes de ses bêtes et il écoute attentivement pour traduire ses mots en lieu de vie. Il lui demande « Mais de quoi rêvent les poulets, au fond ?» Et Paul doit avouer qu'elle ne saurait trouver une réponse simple à cette question. C'est son travail à lui de deviner. C'est comme ça qu'il pourra créer le bâtiment le plus cohérent possible. Alors Louis lit tout sur les poulets. Il les regarde vivre à travers des vidéos et note leurs faits et gestes. En observant que la plupart des poulets tentent de voler, Louis croque des toboggans qui se terminent en queue de poisson. Ensemble, et le téléphone n'a jamais autant sonné, Paul et Louis choisissent sur catalogue les attractions phares de la future résidence. Une piscine gonflable, un écran de télévision panoramique, des miroirs, un parcours du combattant. Un poulet habitué peut sillonner des distances incroyables en ouvrant et fermant des portes actionnant même interrupteurs et loquets. De l'herbe au sol, avec la possibilité de creuser dans la terre, c'est capital. Elle aimerait leur construire des maisons œufs, comme un temple en leur honneur. Ce qu'ils s'apprêtent à créer, ce sont des poulets d'un genre nouveau, des poulets citadins. Et qui sait comment cette mutation se manifestera? Paul ne veut pas les bousculer. Ils ont une organisation invisible à l'œil non averti. En troubler l'ordre peut créer de dangereux déséquilibres. Les poulets peuvent être d'une cruauté impitoyable. Une poule blessée, toute la basse-cour vient la picorer. C'est une question de hiérarchie. Les poulets savent, en fonction de leur physique, de leur plumage, ce qu'ils peuvent se permettre. L'ordre social du groupe peut vite être remis en question. À la ferme, Hector domine. Ce n'est pas le plus grand, le plus fort, mais c'est l'un des plus opportunistes. Ses semblables s'en remettent à lui. Ils ont confiance. Alors Hector mange et boit avant les autres, chasse les subalternes des perchoirs quand il lui prend de s'y installer. Quelques coups de bec et tout reste en ordre. Lorsque cela ne suffit pas, il a recours à de faux combats d'intimidation, comme le font les coqs. Dans ce nouvel espace, le sort d'Hector, et qui plus est des autres, est incertain. Ils seront normalement plus débrouillards que les nouveaux, avoir vécu à la campagne les aide en ce sens. Mais le passage d'un poulailler familial à une exploitation de plus de 10 000 volailles les intimidera peut-être. S'ils ne réussissent pas ce passage crucial d'un lieu à l'autre, ils seront envahis de nostalgie et se laisseront mourir. Pour lancer le cycle de réflexion sur la convivialité, nous avons souhaité discuter avec Barbara Manzetti, qui mène un projet remarquable qui prend la forme d'une famille. Artiste chorégraphe originaire d'Italie, elle a peu à peu délaissé le corps sur scène pour le faire apparaître dans les récits, par la langue et par le processus de l'écriture. Après avoir reçu le prix de la SACD en 1996, Barbara Manzetti s'est dirigée vers la performance, pour interroger l'espace urbain, ses usages, ses règles, ses limites, ses possibilités de faire entendre des voix muettes et de les faire résonner de manière embarrassante, impliquant les spectateurs dans le cheminement de ce que signifie l'accueil, l'amitié, l'intimité et quelle place chacun, chacune, occupe et ou espère occuper. Elle a notamment publié « Épousé. Stephen King » aux éditions Les Petits Matins en 2013. La question d'entrer dans la langue étaye tout son travail et l'a amené à accompagner des personnes immigrées dans l'apprentissage du français, de l'administration française et dans leur demande d'asile. Récemment, l'œuvre Resté.étranger a été acquise par le CNAP sous la forme d'un jeu de cartes bien spécial et l'on peut retrouver les voix de la famille sur l'antenne dédiée de la web radio R22 Tout Monde, radio des arts et du commun. Depuis 2018, après de nombreuses résidences, parmi lesquelles l'espace Chiasma au Lila, devenu maintenant un lieu pour respirer, la ménagerie de verre à Paris, la traverse à Nanterre, Resté.étranger s'est installé à Saint-Denis, dans une maison devenue sa propriété. C'est de là-bas que Barbara nous parle, entourée d'écritures au mur, sur les meubles, sur des post-it colorés qui tapissent chaque parcelle de l'espace, faisant acte de présence pour toutes les personnes qui composent la famille Resté.étranger.
Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter?
Je m'appelle toujours quand même Barbara Manzetti. Là, en ce moment, je me retrouve à l'intérieur de mon œuvre, qui a pris la forme d'une maison. Cette maison se trouve dans la banlieue de Paris, à Saint-Denis. Donc, je suis artiste, une artiste qui a déplacé sa pratique dans un temps et dans un lieu peut-être plus proche de la quotidienneté et de la continuité, et donc d'une forme qui serait processuelle, qui serait durable, qui n'aurait pas comment dire, une affinité avec l'aboutissement de quelque chose, mais plutôt avec la continuation de quelque chose. Et je pourrais dire que le format le plus important dans cette pratique est la relation. Et donc on pourrait dire qu'il s'agit d'une œuvre performative, même s'il y a la possibilité ou l'envie chez moi d'habiter d'autres formats, comme la forme d'un livre, ou d'un texte, d'un enregistrement, d'un son, d'une musique. Et je viens de la danse. Donc en fait, on pourrait dire que toute cette chose diffuse dans le format de mon travail vient peut-être de la danse, en tout cas d'une manière de respirer, de transpirer la pratique artistique et de la porter avec soi et de la mettre en relation avec les autres.
Qu'est-ce que signifie accueillir pour toi et peut-être pour rester étranger?
Ah, en fait, ça signifie... il y avait la question de l'hospitalité. Il y a forcément une porte d'entrée. Pour accueillir, il faut ouvrir quelque part. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de forcément naturel chez moi. Ça a été comme un choix, une décision, cet accueil. Je pense que la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait cette ouverture, c'était un moment où ce n'était pas prévu. Donc la première personne qui m'a amenée au projet Rester étranger, et c'est une femme que j'ai croisée sur mon chemin, qui était assise sur les marches de l'entrée du métro et qui avait l'air de souffrir, avait mal aux dents et comme tout le monde, j'avais des choses à faire, j'avais un but quoi, et j'ai décidé de m'arrêter. Enfin, je me suis arrêtée. Naturellement, je me suis assise à côté d'elle puisqu'elle était assise par terre pour lui parler et ça a commencé comme ça. La convivialité chez Rester étranger n'est pas planifiée. C'est quelque chose qui n'est pas prévu, donc qui accepte la rencontre accidentelle et qui est aussi forcément basée sur une réciprocité. Ce n'est pas moi qui accueille, c'est quelqu'un qui vient, qui accepte. C'est une relation en fait, assez vite c'est une relation. Comme pour moi, la pratique artistique, elle est présente à tout moment. Malheureusement pour la personne qui va être acceptée ou se mettre en relation avec moi, cette personne va rentrer immédiatement à l'intérieur du champ de l'œuvre en fait, et du travail. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a un rapport à la durée ou à la perdurance ou à l'endurance, c'est que ces relations ne sont pas des moments, des relations occasionnelles. C'est une rencontre fortuite, mais qui mène après à développer cette relation et à la rendre de plus en plus stable et à en tout cas envisager que cette relation dure dans le temps. Donc les personnes qui rentrent dans le projet, qui rentrent dans ce qu'on appelle la famille Rester étranger, ils rentrent comme on rentre dans une famille quand on est en fait. Donc qu'on le veuille ou pas, on est comment dire parachuté à l'intérieur de cette forêt quoi qu'est la famille, on se retrouve à devenir mère, père, oncle, fils, fille, et assez vite il y a une complexité qui se met en place et donc cet accueil forcément est revisité, re-questionné, mais on pourrait dire aussi que cet accueil est situé dans la langue, dans le sens où avant la maison, notre maison était cette tentative de rentrer dans la langue française et de se comprendre et de transmettre cette langue sans forcément la traduire, sans passer par une troisième langue, mais donc du coup en essayant vraiment de la transmettre comme une langue maternelle, d'où une relation à l'autre entre la personne qui transmet, la personne qui apprend. Une relation qui est assez vite très familière et affective, puisque ce n'est pas technique, ce n'est pas un protocole, on ne transmet pas le français avec une méthode. La méthode, c'est un tâtonnement entre deux personnes. c'est un surgissement, quelque chose qui surgit, qui est assez beau d'ailleurs, et qui fait beaucoup penser à l'enfant qui grandit, qui imite d'abord, et puis qui parle, qui prend le dessus avec, avec le langage, et qui devient autonome.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Rester étranger un peu plus concrètement ?
Donc Rester étranger est un plus qu'un projet, c'est une expérience, parce que donc ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas un but qui est devant nous. C'est plutôt une expérience qu'on essaie de faire durer au quotidien. Dans les textes, il est écrit que Rester étranger est une espèce de famille. Et que la famille est le format de l'œuvre, car Rester étranger est une œuvre de l'art. Et que c'est un art expérimental, c'est-à-dire un art qui est fait sur le champ, sur le moment, qui est expérimenté, un art qui tâtonne et qui murmure, et qui appartient aux personnes qui sont en train de l'expérimenter et de le faire. Il est question aussi de rentrer dans la langue française et de rentrer en France. Donc des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire français, mais qui ne sont pas forcément nées en France, et qui sont déjà là depuis un certain temps, donc qui développent leur étrangeté et leur rapport à la langue depuis longtemps, comme moi. Et puis des personnes qui ont échoué ici. Et ces personnes qui rejoignent en fait le projet petit à petit et qui augmentent en fait cette famille, là, l'épanouissent en fait. Il y a une forme d'épanouissement dans la famille. Avec l'arrivée de nouvelles personnes. Ces personnes-là, pour la plupart, en tout cas, étaient des personnes qui n'étaient pas attendues, dont la société française n'attend pas grand-chose, ou voire pas du tout, et que la société française aurait plutôt tendance à vouloir évacuer, expulser. Rester étranger existe depuis l'année 2014, je dirais fin de l'année 2014-2015, et c'est un texte qui devient... qui devient réalité, en fait. Et dans Rester étranger, il s'agirait de trouver l'hospitalité absolue dans la langue, donc dans la langue française, qui devient une sorte de langue fourchue, ou de... Enfin, moi, je l'appelle le fleu. Donc, j'ai repris l'appellation de français langue étrangère, et puis j'ai enlevé les points. Et c'est dans ce fleu qu'on essaie de faire la place, non seulement aux personnes, mais aussi à leur... à des expressions qui viennent de leur langue maternelle, des langues maternelles qui souvent sont des langues très très minoritaires, des parlées plus que des langues codifiées. Et donc on pourrait dire que la maison de Rester étranger se trouve à Saint-Denis, mais se trouve aussi dans la langue FLE, que ce soit des formats photographiques, filmiques, que ce soit des livres, des publications, sont plus comme des feuilles tombées d'un arbre, des éléments d'archives qui prouvent en fait que quelque chose s'est passé. Et on pourrait dire que l'œuvre elle-même, elle se situe vraiment dans la tenue et dans la difficulté de maintenir ces relations en cours et en vie, et de s'avouer que ces relations existent. C'est une œuvre, c'est un processus qui change forcément la vie de chacun des membres de la famille. Mon rôle à l'intérieur de la famille est celui de coryphée. Si on entend la famille comme un chœur qui a plusieurs voix, et donc le coryphée est là pour coordonner un peu. Je peux écrire un texte qui reprend en fait les voix de la famille, et je peux aussi aller faire les courses à Carrefour. Et je peux aussi être la mère de pas mal de personnes et m'occuper de l'aspect administratif. Mais donc, je suis aussi une des personnes les plus âgées dans la famille. Il y a des générations, il y a des auteurs dans la famille, puisque donc chaque membre est auteur du projet, et du coup, chaque membre, qu'il ait un an, deux ans, un mois, ou qu'il soit encore en gestation, est auteur. Et ça, c'est une chose très importante. Puisque échouer en France, arriver ici, sans statut, sans nom, sans identité, sans papier, est un peu au départ, un peu le point de départ. de notre expérience, et le fait de rentrer dans la famille et dans le projet donne un statut qui est un statut administratif en fait assez rapidement.
Et vous êtes pour combien toi, là dans la famille?
C'est très compliqué en fait de dire combien de personnes, parce que comme dans chaque famille il y a les la mère, le père, ou les pères, ou les mères, les fils, les filles, les enfants qui sont en train de naître, ceux qui sont en train de se marier, ceux qui sont partis, ceux avec qui on s'est engueulé, mais à qui on pense beaucoup, ceux qui ont été expulsés, du coup, qui ont créé une autre famille ailleurs. Et donc, c'est difficile de dire combien de personnes. Et la question du nombre, c'est toujours une question qu'on me pose, mais combien vous êtes ? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Entre hier et aujourd'hui, j'ai eu affaire avec donc Hassan, qui est mon fils, avec Bartolomeo, qui est mon autre fils, avec Mohamed, qui vit en Italie et que j'aime comme un fils, et qui m'a dit que je suis comme une mère pour lui. Avec Sabrina, qui se définit en tant qu'oncle et tante de la famille, avec Youssouf, qui m'a téléphoné, donc qui m'a transmis aussi sa sciatique à Noël. C'est pas des relations amicales, c'est différent en fait. Il y a quelque chose d'assez fort qui nous lie à partir du moment où on accepte cet accueil en fait, réciproque. Il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de relations qui sont en suspens à cause de ces non-dits. Je dirais qu'il y a minimum 35 personnes. Ça grandit et en ce moment, il y a des membres qui sont plus actifs, disons dans le monde de l'art, et d'autres qui sont très actifs ailleurs. Mais il n'y a pas un statut, il n'y a pas une sorte de hiérarchie qui ferait que la personne qui s'agite le plus a plus d'importance. On n'est pas plus auteur de l'œuvre parce qu'on en fait plus, quoi. Ou parce qu'on crie plus fort. On peut s'absenter et du coup prendre énormément de place dans l'œuvre.
Et justement, voilà. ce rapport à l'œuvre, je me demandais, les personnes que tu accueilles ou qui arrivent chez toi et chez vous, c'est pas forcément des artistes au départ, donc comment est-ce qu'eux-mêmes accueillent cette relation de co-auteur?
Ça a fait sourire et ça a aussi été important au niveau administratif pour certaines personnes. Et à chaque fois, c'est pris avec énormément de naturel. Ça suggère quelque chose de dire, en fait, comment nous, on se pose la question du comment aussi on entre dans l'art et qu'est-ce que c'est. Et s'il faut absolument passer par une formation, une école pour devenir artiste, ou si l'artiste est quelqu'un qui arrive justement de quelqu'un qui n'était pas attendu. Donc, dans Rester étranger, on a cette définition de l'artiste qui est celle de la personne qu'on n'attendait pas et dont on n'attend rien. Donc, nous, quand on présente le projet aux personnes qui viennent et qui rentrent dans la famille, on leur dit, en fait, nous, on n'attend rien du tout de toi. On n'attend pas que tu fasses, t'écrives une chanson, t'écrives un livre. La personne est là et commence à se poser des questions. Avec Kassim, Koné, qui a vécu plusieurs mois ici et qui maintenant s'est marié et vit dans un hôtel social quelque part dans le 15e arrondissement. Cassine, il m'a posé beaucoup de questions. Mais Barbara, mais alors qu'est-ce que je dois faire pour être artiste? Je lui ai dit, écoute, maman, non plus, je ne sais pas. J'ai commencé à l'observer, je lui ai dit, écoute, tu es quelqu'un d'hyper dynamique, on a ça en commun, tu n'arrives pas à rester assis. Tu circules, tu es peut-être un artiste de la performance ou qui est plutôt lié à la danse. Et puis, on a aussi commencé à relire des choses que j'étais en train d'écrire avec Nicole, avec Hassan. On se posait des questions, en fait, sur un texte. Et donc, assez naturellement et en bâillant, Kassim est rentré dans l'écriture avec moi, comme ça. Il a commencé à me dire que ce que j'écrivais, c'était un peu trop compliqué. Et du coup, on s'est ajusté. Et du coup, c'est lui qui a réorienté l'écriture vers un vocabulaire qui était le sien. Et c'était un texte qu'on écrivait pour l'université, pour une publication universitaire. Et c'était très intéressant. Parce que forcément, en fait, chaque mot que j'avais posé était remis en question. Et même la définition du projet, processuel et durable. Alors là, les performances, les chorégraphiques, le vocabulaire était inadapté. Et donc, c'est comme ça qu'on devient auteur dans Rester étranger.
Donc c'est toi, disons, le premier maillon de cette expérience. la petite étincelle. Tout à l'heure, tu nous disais que il y a une forme d'effacement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi comment tu arrives à ne pas être toujours peut-être la référence de la famille, ou est-ce que justement tu restes cette référence parce que tu étais là au début?
Je reste cette référence parce qu'il y a chez moi une habitude à envisager cette expérience comme une œuvre. Et que ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Et pour moi, cette œuvre, disons, là, à l'intérieur de laquelle nous sommes en train de discuter, est prioritaire par rapport à d'autres œuvres sur lesquelles d'autres travaillent. Et donc, on pourrait dire que je reste au centre de cette expérience parce que j'ai la volonté de la faire perdurer, en fait. Et donc, il me revient, du coup, pas mal de tâches ménagères et domestiques qui ne sont pas obligatoires pour les autres membres, puisque ça, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas d'obligation de présence. Pour te faire l'exemple de Hassan, il est occupé, il étudie, il va bientôt entrer en stage, et il vit dans cette maison quand même. Je sais que ça va, qu'il n'a pas le temps. Je sais qu'il n'a pas le temps. Donc, en ce moment, il y a Caroline Sibilo qui est en train d'imprimer des éléments du projet en sérigraphie. Il y a Sabrina Benacchietti qui est en train de travailler à l'écriture d'une notice qu'on donnera au CNAP, à la conservatrice, pour qu'elle puisse comprendre comment on rentre dans l'œuvre, qui va lui faire découvrir qu'elle ne pourra pas sortir de l'œuvre une fois qu'elle est rentrée. Et il y a Nicole Coffey, qui arrive donc demain et qui est à la fois en train de travailler sur cette entrée de l'œuvre au CNAP et sur l'obtention de l'asile politique. Disons que cette bifurcation de la performance de Nicole, elle est seule pour beaucoup de choses qu'elle porte seule. Mais on va la rejoindre pour l'accompagner à certains rendez-vous, on va l'aider à retravailler sur son dossier, puisque l'obtention de ses papiers fait partie de notre projet, et elle viendra nous rejoindre en sérigraphie si elle a le temps, à l'exposition si elle a le temps. Et donc, voilà, si tu veux, il y a des priorités qui font que moi je suis plus, ma priorité c'est ma pratique artistique, ça me fait gagner ma vie aussi à l'extérieur du projet, peut-être parce que j'ai le temps et l'envie.
Tout à l'heure, tu parlais de la possibilité d'entrer dans le projet et d'avoir un statut grâce à ça. Et donc là, par rapport aussi à ce que tu disais vis-à-vis de Nicole, comment est-ce que, à l'intérieur de rester étranger, vous pouvez utiliser le droit pour inviter des gens et créer cette convivialité?
C'est une grande question, parce que légalement, on ne peut pas nous contrer une volonté étatique et des règles. Et par contre, par le biais du droit d'auteur, justement, si on peut rester, on peut parler de Nicole Coffey. Je pense même qu'on a répondu à l'appel à projet du CNAP Award parce que Nicole est... parce que c'était la fin du premier confinement et que Nicole était revenue à la maison et qu'elle était là dans le jardin à côté de moi et que ça a semblé une évidence de lui donner une place, de légaliser sa place d'auteur. Donc une place qu'elle avait déjà appris depuis plusieurs mois. Elle avait co-signé des textes, elle était à l'origine de l'ouverture de la maison. Elle était là au moment de la fabrication des meubles. C'est la première à avoir pris des photos ici, dans la maison, donc ça nous semblait évident qu'il fallait lui donner une place d'auteur. Donc, à un moment donné, en signant un contrat de cession de droits d'auteur avec le CNAP, ça oblige l'administration à se poser la question, en fait, du statut de Nicole. Et donc, ça met au travail plusieurs personnes. Ça nous met, nous, au travail, ça met beaucoup au travail Nicole. Donc, il y a plusieurs personnes dans l'administration, au CNAP, qui sont en train de chercher des solutions. Parce que ce n'est pas une question de légalité. Tu peux être auteur non résident en France tout en étant résident en France. Mais là, il s'agirait de lui donner de la force et de la légitimité pour demander l'asile en France. Donc, on va rester. comme le projet du bureau des dépositions, on tente quelque chose. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas.
Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la maison ? Pourquoi à un moment il est devenu important d'avoir un lieu physique où se retrouver ?
Je me pose vraiment la question de l'importance de la maison. Je crois que l'œuvre continue quand même d'exister, et en tout cas de se manifester toujours dans un espace entre. Entre les espaces et pas la maison. Et en même temps, la maison n'est pas cet espace de repos qu'on imaginait. Il nous fallait à un moment donné un port, ou en tout cas un lieu de protection. Et un lieu où la législation extérieure ne rentre pas, ne vienne pas expulser ce qui est en train en fait, de se former. Mais on n'a pas du tout l'impression que l'achat et le fait de vivre dans la maison aient changé quelque chose. Il y a quelque chose de romancé, en fait, quelque chose de virtuel même dans le projet de maison et dans ce roman, dans cette chose aussi virtuelle, on est en train de vivre. Il y a quelque chose de ça dans la maison. Forcément, la maison, elle n'est pas énorme. Il n'y a pas de place pour tous les membres de la famille. Et il y a cet aspect-là, la rend très imparfaite. Et en même temps, c'est quelque chose de très concret. Il nous a vraiment servi à rencontrer Nicole, Kofi, Prince, Paco Nanko, Mohamed Bamba, Kassim Kone, Youssouf Hassan, qui sont entrés donc dans la famille en entrant dans la maison. Donc on pourrait dire que la maison ouvre un nouveau chapitre dans l'expérience qui était de nous rappeler qu'on ne peut pas s'asseoir sur ce qui est acquis, sur les relations aussi qui sont déjà établies, mais qu'à tout moment, on peut cette rencontre fortuite avec cette personne voilà, qu'on n'avait pas attendue peut avoir lieu. On pourrait voilà, situer la maison à cet endroit-là. C'est un peu comme une porte qui s'ouvre sur cette éventualité de l'arrivée de quelqu'un.
Cette porte, est-ce que tu dirais qu'elle s'est ouverte quand tu as adopté Hassan ?
L'adoption, elle ouvre sur, comment dire, sur une forme d'acceptation de l'aspect affectif du projet aussi. Et en même temps, elle ouvre sur la complexité du rapport à la légalité, à la loi et du rapport vraiment légal de faire famille, puisque l'adoption finalement a fait entrer dans cette complexité ben, mes parents, mon autre fils, tous mes amis, ça a forcé les rapports en fait, ça a ouvert d'autres portes et d'autres écoutes, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre maison et adoption. En dessinant la cartographie la semaine dernière, je me suis rendu compte que quelqu'un nous avait suggéré ce geste-là d'adopter. Quelqu'un qui a adopté et qui nous a hébergés, nous a induit en fait finalement cette chose, ce choix chez nous. Un peu comme la douleur de dos de Youssouf qui s'est transmise en prenant les cours de français. Il y a quelque chose qui se transmet, quelque chose de viral que la maison permet peut-être de rendre plus perceptible en s'approchant d'une personne qui est dans l'illégalité parce que en fait parce qu'il y a une structure sociale en fait qui met la personne, qui écarte la personne. On est déporté aussi dans une zone de non-droit assez vite. Dans les archives, nous avons inclus les documents administratifs qui sont relatifs à l'adoption. Et il a fallu faire tout un travail, en fait, pour rendre anonymes les personnes, les juges, les préfets, les notaires. Et donc, moi, ça m'a obligée aussi d'avoir un regard sur la littérature, en fait, qui ressort de ça. Et là, l'adoption est une requête qui est finalement rejetée par l'État français pour plein de raisons. Et ce qui est remis en question par l'État français, c'est la légitimité de l'affection maternelle. En fait, d'après la juge, c'est impossible de prouver que l'affection qui nous lie est une affection donc maternelle et filiale. On pourrait très bien être juste des amis et donc l'adoption est effective pour nous. Et il y a un acte d'adoption signé devant un notaire qui existe, mais l'État, lui, le tribunal n'a pas validé. Ce qui ne change rien pour nous, pour la famille, mes parents, notre fils, c'est effectif en fait. Et ça laisse des marques, des blessures, et sont visibles dans la relation aussi. On pourrait dire, et ça c'est Sabrina Pennacchietti qui m'a proposé d'écrire la liste des contre-indications et des effets secondaires de l'œuvre Récits étrangers, que Sabrina souhaitait donner à la notice, vraiment une forme de notice, comme d'un médicament. Donc il y a des effets, quels sont les effets indésirables, éventuels, en cas d'utilisation de l'œuvre et donc d'entrée dans la famille. Et je vous dis, c'est vraiment, on a commencé à faire la liste des symptômes que nous, on avait ressentis physiquement, et puis d'autres symptômes que d'autres membres de la famille avaient ressentis et racontés. Alors, impatience des membres inférieurs, manque de sommeil, difficulté à se lever, narcolepsie, augmentation ou diminution brusque de la consommation de viande, prise de poids, acouphènes, vertiges, vomissements, palpitations, hypernésie, amnésie totale ou partielle, sensation de faiblesse soudaine, sensation de brûlure aux extrémités, amnestie, trouble de la vue, perte de l'autonomie, prostration, procrastination, déplacement progressif des goûts, des cultes et des exigences vestimentaires vers d'autres horizons d'élégance. Cette métamorphose peut déboucher sur un éclatement des canons esthétiques. Devenir parent malgré soi, développer une accoutumance à la vie domestique, et entre parenthèses, des sacrifices ou des affrontements pourraient survenir à l'endroit de tâches ménagères. Renoncement au confort ou son contraire, avec la sensation amère de contribuer à engendrer des futurs capitalistes. État d'angoisse, frustration, sentiment d'impuissance, douleur dorsale aiguë, parfois irréversible, jusqu'à immobilisation totale ou partielle, douleur fantôme chronique, douleur morale chronique ou aiguë, danger d'agression physique ou morale, ménopause, andropause anticipée, isolement, dénuement, rejet administratif définitif, arrestation, transgression de la loi, désobéissance civile, confrontation directe aux forces de l'ordre, difficulté à faire convivre les croyances, manque de croyances, développement réversible de comportements afro-abusés ou oro-abusés. Et pour terminer, apparition de traumatismes identitaires dus à la prise de conscience des contre-récits coloniaux et post-coloniaux. Voilà. Finalement, quand tu engages des relations avec des gens, ça, que tu décides de ne plus les voir ou que tu les vois toujours, la relation, elle existe, quoi. Donc, en fait, il y a quelque chose d'inexorable dont on prend conscience par rapport aux autres expériences artistiques. Voilà.
Est-ce que le projet s'expose, peut s'exposer ?
Oui, ben là, il y a une proposition qui nous a été faite. Il va y avoir un vernissage dimanche à la Maison de l'Ours et ce sera une émanation donc, de l'œuvre qui prendra la forme de conversations, peut-être des lectures, déroulement de bobines de papier, partage d'éléments narratifs plutôt enregistrés. Une exposition nommée directement en relation avec des nouvelles personnes qui vont rentrer en fait dans l'œuvre et dans la famille. Et du coup, chaque exposition finalement fait augmenter en fait le champ, la géographie humaine et territoriale de l'œuvre. Et donc il y a quelque chose d'angoissant en fait aussi. On a envie de fermer ou de clôturer ou de finir quelque chose. Là, l'archive de 2014 jusqu'à 2020, ça nous apaise un peu, en fait, de ranger les événements dans un disque dur, dans des manuscrits. Donc, il y a 3 manuscrits qui sont finis, qui sont terminés. Et ça fait du bien parce que ça laisse de la place pour ce qui arrive, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Déjà, il y a un enfant qui va naître dans pas longtemps, je crois. Donc, un nouvel auteur ou pas.
Thank you. Bonjour Mathis. Voilà une lecture téléphonique d'un texte sur lequel je travaille. Une contribution que nous écrivons à plusieurs pour la revue Lily Larosen et La Marimba, qui est la revue du Centre d'art de la ville de Rennes, La Criée, que tu dois connaître. Et c'est la partie que je suis en train d'écrire. C'est une partie de la partie que je suis en train d'écrire, que je vous envoie. J'espère qu'elle vous conviendra. N'hésite pas à me dire. Voilà, bonne journée, au revoir.
Sabrina appelle cette qualité intrinsèque, cette insistance à se maintenir en immersion dans l'œuvre, comme un sachet de thé, la perdurance, qui n'est pas une continuité frénétique, mais une course de fond sans ligne d'arrivée. L'expérience qui ne finit pas continue lorsque les auteurs partent précipitamment à Mont-Saint-Martin pour chercher un recommandé à la poste de Longwy, lorsqu'elles sont expulsées de l'autre côté de la frontière, lorsqu'elles regagnent leur appartement du 11e, du 5e ou leur chambre de bonne à Paris 17e, en laissant à côté de l'évier une trousse de toilette, lorsque elles téléphonent pour annoncer la naissance d'un enfant ou qu'elles partent faire les vendanges à Dijon, lorsqu'elles rentrent à Nantes, à Die, à Rennes ou qu'elles voyagent en Guinée-Bissau, lorsqu'ils meurent ou sont enterrés loin de Paris, ou incinérés à Rome, ou disparus à jamais dans la Méditerranée. La perdurance est ce que Hassan traduit par « timicto », l'infini, ou encore par « wei negersito oruru ».« Wei, nous, negersito, restons, oruru, jusqu'à la fin du temps ». Hassan est professeur émérite de notre université, professeur de tamankik ou tamankik, qui signifie littéralement « parler tam », langue nilo-saharienne du Soudan et du Tchad. L'immanence du format évoqué plus haut par Nicole, Goussogo, la famille, n'est pas à prendre à la légère. Timicto nous engage pour toujours, autrement dit en créole haïtien, pour tout temps. La perdurance nous impose des périodes d'économie relationnelle. Durant ces périodes, nous vivons des jours accablants, c'est le cas de le dire. Nous restons jamais en retrait de nos fonctions au sein de la famille. L'impossible économie nous ménage affectivement. Effectivement, nous faisons le ménage dans les stances, désertées par les auteurs en vacances. Le dictionnaire italien Treccani nous renseigne sur l'origine du mot stanza, du latin stanza, demeure, terme dérivé du stare, rester. Le dictionnaire cite le poète Giacomo Leopardi. Così meco ragiono e della stanza smisurata e superba e dell'innumerabile famiglia, que nous traduisons littéralement par ainsi en moi je raisonne de la stance démesurée et superbe et de l'innombrable famille. D'après le dictionnaire universel, le terme français stance indique un groupe de vers formant un système de rimes complet. L'intitulé resté étranger pourrait alors être envisagé comme une manière d'habiter la langue fleuve.